journal, Mireille Boukassa.
L'inscription pour le désarmement à Nitouri prend fin ce vendredi. Le responsable de l'unité d'exécution du PNDDR lance un dernier appel au récalcitrant. Les négociations entre le gouvernement et les enseignants ont pris fin hier à Kinshasa. Parmi les résolutions, augmenter le salaire des enseignants et supprimer la prise en charge des parents. Et puis, la situation générale des pygmées en RDC, après une enquête à Mambasa en Ituri, l'ONG Espoir pour tous conclut que le peuple pygmée est marginalisé. Pendant ce temps, à Bounia, des pygmées intègrent pour la première fois la police nationale congolaise. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Plus de 2800 combattants de l'Ituri sont déjà inscrits sur les listes pour le désarmement. Selon les estimations des autorités congolaises, il en reste au moins 1600. Les chefs des groupes armés de l'Ituri doivent déposer les listes de ceux qui restent, car le délai expire ce vendredi 17 août. Le temps de la guerre est passé, il faut reconstruire le pays. C'est l'appel que lance le responsable de l'unité d'exécution du programme national DDR, Tumbalaba.
C'est vraiment la dernière chance et les responsables de groupes armés eux-mêmes nous ont dit qu'ils ne vont plus tolérer qu'il y ait d'autres groupes armés qui apparaissent à Ituri et nous n'accepterons plus d'autres groupes armés à Ituri, c'est fini. On ne tolérera plus de violence à Ituri. L'État est venu pour la paix et pour la reconstruction. Et pour eux, l'intérêt est que parmi eux, il y a des gens qui ont été par exemple embarqués par la force sans le vouloir dans les groupes armés et qui veulent regagner la vie civile. Nous leur donnons cette dernière chance. Au stade de la réinsertion, il y a même un apprentissage d'un métier, d'une profession. Le PNUD prévoit même des programmes de développement et de reconstruction communautaire. Ce qui revient à dire, ce que les ex-combattants ont détruit hier, ils doivent contribuer à reconstruire.
Tumbalaba, coordonnateur de l'unité d'exécution du PNDDR, qui était au micro de Georges Kamudjova, il sera l'invité de Radio Kapi demain vendredi à partir de 8h30, heure de Kinshasa. À Kisangani, plus de 25 éléments Maïmaï ont déserté le centre de brassage Lukusa depuis bientôt 3 semaines. C'est seulement ce jeudi que les autorités militaires du centre de brassage, jusque-là hésitantes, ont confirmé cette fuite à Radio Kapi. À la tête de ces déserteurs, le commandant du bataillon Zulu d'Opiengé Yabili Yembo, mieux connu sous le pseudonyme de Major Luc. Actuellement, tous se trouveraient à Balobé, une localité à plus de 60 km d'Opiengé, selon des sources militaires à Kisangani et à Bafouassendé. Le vice-gouverneur de province, qui redoute la recrudescence des tracasseries dans cette contrée, promet de s'investir afin de les ramener à Kisangani. Anselme Massoua.
C'est depuis 3 semaines que le major Luc Yabili et 25 autres de ses éléments ont disparu du centre de brassage. Ces anciens maquisards du parc de Maïko ont tout simplement décidé de regagner leur sanctuaire à Balobé. Selon le commandant adjoint du centre, leur fuite serait motivée par le non-paiement de leur solde. La raison pour laquelle, a-t-il souligné, Luc et ses éléments ont été autorisés de se débrouiller en dehors du centre pour leur survie. Leur fuite n'est pas à craindre étant donné que le brassage n'est pas obligatoire, a-t-il souligné. Cette prise de position n'est pas partagée par le commandant FARDC chargé des opérations à Bafouassendé, qui pense que ces Maïmaï devraient rester à Kisangani jusqu'à la fin de leur formation. Quoi qu'il en soit, le commandant adjoint du centre de brassage affirme avoir déjà saisi le commandant de la 9e région militaire sur cette affaire, ceci pour des dispositions utiles. Aussitôt informé, le vice-gouverneur de province compte convoquer le comité provincial de sécurité pour en discuter. Pour Joseph Bangakia, Luc et ses hommes doivent regagner Kisangani afin que la population vague paisiblement à ses occupations dans la région d'Opiengé. Rappelons que le major Luc est arrivé à Kisangani le 14 juin dernier avec ses 23 éléments Maïmaï grâce aux multiples efforts déployés par la MONUC. Kisangani, Anselme Massoua, Radio Kapi.
Le gouvernement rwandais encourage les combattants Hutu rwandais des FDLR à souscrire au rapatriement volontaire dans leur pays. Ils s'opposent toutefois au dialogue inter-rwandais sollicité par ces FDLR. C'est l'avis des autorités rwandaises rencontrées en début de semaine à Kigali par une équipe conjointe DDR et l'information publique de la MONUC. Selon Charles Murigande, ministre rwandais des Affaires étrangères, Kigali développe une autre forme de dialogue interne au Rwanda. Il le dit au micro de Michel Chirimwami.
Ces FDLR devraient rentrer et rejoindre ce dialogue permanent qui existe entre gouvernants et gouvernés. Personne ne les a exclus de ce dialogue, mais s'ils ont en tête un autre dialogue qui tendrait à chercher à ce que les survivants du génocide partagent le pouvoir avec les génocidaires, je crois qu'ils vont attendre encore un bon bail de temps. Pour notre part, nous continuons à avoir nos bras grandement ouverts prêts à les accueillir. Nous avons des camps de transit qui fonctionnent depuis de nombreuses années et ils sont rentrés par milieux. Ceux qui sont rentrés ont été réintégrés dans la vie socio-économique et politique de notre pays. Mais il faudra qu'il y ait une certaine pression exercée sur ces gens-là.
Le président de la République démocratique du Congo en route pour Lusaka, Joseph Kabila, participera au sommet de la communauté de développement d'Afrique australe, SADC. Le président congolais a été précédé dans la capitale zambienne par les ministres des Affaires étrangères et de la coopération internationale Antipas Mbusanya Mwisi, de la défense Chikes Diemou, ainsi que celui de l'intérieur, le général Denis Kaloumé. Selon l'AFP, le sommet de la SADC s'est ouvert dans la matinée à Lusaka. Augmenter le salaire de l'enseignant et du huissier, supprimer la prise en charge des parents, c'est parmi les résolutions des négociations entre les enseignants et le gouvernement qui ont pris fin hier à Kinshasa. Pour Jean Bosco Pouna, secrétaire général du SINECAT, le syndicat des enseignants des écoles catholiques, l'amélioration est appréciable, mais tant d'autres efforts restent à fournir sur, entre autres, l'application du barème des Mboudi. Toutefois, selon lui, ce sont les assemblées des enseignants de toute la République qui décideront sur la rentrée fixée au 3 septembre par le gouvernement. Jean Bosco Pouna estime que tout dépendra aussi de l'application du nouveau barème négocié à partir du 20 de ce mois. On l'écoute au micro de Babel Pongo Massimango.
Satisfait des résultats, c'est toujours difficile à dire, dès lors que le barème d'Mboudi n'est pas payé. Mais nous disons qu'il y a beaucoup de points qui ont trouvé des solutions, notamment l'aspect administratif, la transposition des grades, la titularisation, les régimes disciplinaires. Par contre, le volet salarial reste encore un problème épineux, qu'on a donné aux huissiers de Kinshasa 35 000 francs, celui des provinces 20 000 francs. Mais la tension salariale n'a pas été respecter. Il faut également attendre que toutes les promesses qui sont faites soient matérialisées. C'est le 20 août, en principe que les enseignants doivent être payés. La rentrée est prévue pour le 3 septembre, ça c'est l'instruction officielle. Maintenant, il revient aux partenaires qui sont les enseignants à pouvoir apprécier pour donner les derniers mots.
Les ministres de l'EPSP, de la fonction publique, du travail et de la prévoyance sociale, ainsi que celui du budget, ont aussi pris part à cette rencontre avec les syndicats hier à Kinshasa. Enseignement toujours avec la plainte des inspecteurs de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel de Bandundu. Ces inspecteurs portent plainte contre le coordinateur diocésain des écoles conventionnées catholiques de Kyenge Nord. Il accuse d'avoir détourné leur salaire de deux derniers mois. Après avoir recouru à plusieurs voies de recours sans succès, ils se sont décidés enfin de saisir la justice. Sur place à Bandundu, Baziba Kumbane suit pour nous ce dossier.
C'est depuis hier mercredi que la plainte des inspecteurs a été déposée au parquet de grande instance de Bandundu-Ville. Ils réclament leur salaire de mois de juin et juillet, salaire qui, selon eux, serait détourné par les coordinateurs diocésains des écoles conventionnées catholiques. D'après cette plainte, ces inspecteurs, jadis préfets des écoles, étaient lauréats de la 6e édition de concours des inspecteurs vers fin 2005. Depuis lors, ils recevaient leur ancien salaire en attendant leur nouvelle mécanisation. Curieusement, depuis le mois de juin dernier, ils s'habitent au refus du coordinateur diocésain. Après avoir usé de moyens de recours en leur possession sans succès, ils saisissent la justice. Contacté à ce propos, l'abbé Godefroy Kilembo, coordinateur diocésain des écoles catholiques, reste catégorique. On ne peut pas continuer à payer les gens qui n'exercent plus chez nous, dit-il. Pour lui donc, une fois devenu inspecteur, ce personnel relève désormais de l'inspection générale. Il rassure toutefois que cet argent n'est pas détourné, mais plutôt consigné en attendant de faire la lumière sur les dossiers. L'argument que refutent les inspecteurs en brandissant l'ordonnance numéro 232/91 qui stipule qu'un enseignant ne peut être privé de son salaire tant qu'il exerce encore. Il ne reste plus qu'à la justice de fixer les dossiers. Bandundu-Ville, Basile Bakumbane, Radio Okapi.
Au Kasaï occidental, les rescapés de la catastrophe de Kakenge arrivés à Kananga sont mécontents de la gestion des dons offerts par le gouvernement et des agences humanitaires. Ils accusent le comité de crise mis sur pied après l'accident d'être à la base de cette situation. Les rescapés internés au complexe hospitalier de Kananga disent passer des journées entières sans manger. Le docteur Berry Beya de ce complexe, qui a rendu public l'information, estime en même temps que la gestion de ces dons en vivres doit être confiée à l'hôpital où les rescapés sont internés. On l'écoute.
Le comité de crise est venu récupérer les biens, même des parlementaires, voire même ce que la coopération belge avait amené pour les malades. Alors, quand les malades ont vu toute une journée passer comme ça, sans qu'il y ait quelque chose à manger, vers 18h, quand on allait pour leur donner les médicaments de troisième temps, ils ont refusé. Ils ont dit non, vous me donnez le poison, il fallait plus abandonner à manger. Le matin, c'était la même chose. Au niveau de l'hôpital, on avait compris que si les biens sont sur place, et même si le comité de crise pouvait venir faire une cogestion avec les membres de l'hôpital, ça pouvait être bien.
Pour sa part, le comité de crise fait savoir que la situation de manque de nourriture est due au retard enregistré dans la collecte des différents dons. Dr Yalé affirme que désormais, tout sera réglé sans difficulté. Suivant.
On a décidé de centraliser tous les dons en vivres et en médicaments pour permettre à ceux qu'on puisse répartir tous ces intrants entre les différents sites, que ce soit à Kakenge, que ce soit au complexe hospitalier de Kananga, que ce soit même Kikaj. Le même jour, nous sommes allés avec Caritas pour retirer des effets à l'hôpital parce qu'il y avait d'autres vivres qui étaient consignés là. Mais ça n'a pas été possible. Il y a eu une résistance. Donc le travail qui devrait se faire le 13 n'a pas été fait. Et il soit le vivre cédé à Caritas, Caritas devrait centraliser, comptabiliser et répartir le vivre suivant le nombre de malades, suivant la localisation. C'est ça qui a été fait. Et ce travail a été fait avant-hier. Et hier, Caritas a mis à la disposition des malades de vivre avec des éponges. L'hôpital général pouvait donner la bouffe aux malades jusqu'au mardi, mais n'a pas pu donner. Mais ce n'était pas que par mauvaise intention.
Notez que la Caritas Congo a promis de prêter main forte en apportant son support logistique à cette opération. Ce dossier est réalisé par Pierrot et Lamiche. Les pygmées ne jouissent pas des droits reconnus aux humains, moins encore des droits constitutionnels reconnus à tous les Congolais. C'est la principale conclusion publiée aujourd'hui des enquêtes sur la situation générale des pygmées et les incidences des différentes guerres sur leur survie. Ces enquêtes ont été menées du 24 mai au 8 juin de l'année en cours dans le territoire de Mambasa en Ituri par l'ONG Espoir pour tous. Le président de cette ONG revient ici sur les incidences de différentes guerres sur la vie des pygmées. Luc Lutala est interrogé par Nazan Koko.
Les pygmées, leur niveau de scolarisation a été brisé, leur niveau de développement communautaire, les efforts volailles, leur maison a été complètement détruite. Les pygmées ont été victimes de nombreux sévices, notamment corporels et physiques. Mais les pygmées, sur le plan de scolarisation aussi, la scolarisation, les infrastructures scolaires, le niveau d'acceptation par les autres populations et le niveau de sédentarisation avec les guerres, les pygmées sont rentrés dans les fonds des forêts. Plus encore, les pygmées ne sont pas tolérés ni respectés du fait qu'ils sont pygmées, ils sont discriminés.
Au cours de votre enquête, est-ce que vous avez pu déceler certains besoins prioritaires exprimés par les pygmées et même dont ils voulaient voir la réalisation?
Notamment la scolarisation des enfants, ils ont besoin d'études, d'écoles, de l'agriculture, donc du développement communautaire. Ils expriment le besoin d'avoir un habitat décent, d'avoir de soins de santé, d'avoir de l'emploi.
Pour la première fois, deux pygmées viennent d'intégrer la police nationale congolaise. Ça se passe dans le territoire de Mambasa, situé à environ 135 km au sud-ouest de Bunia, en Ituri. L'intégration de ces pygmées au sein de la police intervient après avoir suivi 6 mois de formation, notamment en technique de maintien de l'ordre public. Ils ont été présentés officiellement au public lundi dernier, au cours d'une parade générale, en présence des autorités civiles et militaires de la place. Jean-Claude Lucky.
Selon le commandant du commissariat territorial de la police de Mambasa, c'est suite à une forte sensibilisation menée par les autorités coutumières, militaires ainsi que d'autres ONG locales de défense des droits et promotion des peuples pygmées que ces deux premiers candidats avaient manifesté leur désir d'intégrer la police. À l'issue de leur formation, ces deux lauréats pensent qu'ils ont un grand rôle à jouer, celui de sensibiliser d'autres pygmées à emboîter les pas. L'un d'eux, Alekwa Kyubo, a été joint au téléphone.
J'ai choisi librement d'intégrer la police nationale congolaise. Nous sommes à deux. Nous irons maintenant sensibiliser d'autres pygmées en Douye pour qu'ils intègrent également la police.
Après 4 mois de formation à Mambasa Centre et 2 mois en Douye, à 60 km plus loin, la hiérarchie locale de la PNC estime leur capacité suffisante pour servir le pays dans le travail de maintien de l'ordre. Kumalaki Mujanju, commandant du commissariat territorial de la police de Mambasa, décrit le type de formation dont ces deux lauréats policiers pygmées avaient bénéficié pendant 6 mois.
Le maintien de l'ordre public, les exercices d'infanterie, quelques notions élémentaires des droits pénal spécial et des droits pénal général pour qu'ils puissent quand même arriver à se saisir de certaines infractions à les constater. Pour le moment, ceux-ci savent directement lire un peu le bulletin de service et les convocations. En tout cas, nous sommes satisfaits de leur formation.
Notons que trois autres pygmées candidats au sein de la police nationale congolaise poursuivent leur formation en Douyé. Bounia, Jean-Claude Loki, Radio Kapi.
À Kinshasa, la police a dispersé ce matin une marche pacifique des photographes, marche organisée par l'Union nationale des photographes pour protester contre l'assassinat le 9 août dernier d'un photographe reporter à Goma. Selon Journalistes en danger, ONG de défense des droits des journalistes, les éléments de la police d'intervention rapide accusent les photographes de n'avoir pas informé l'autorité urbaine. Les photographes ont déclaré à Genève avoir écrit au gouverneur de la ville. Et c'est par ici que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.